Chapitre 28. Une épine pourpre. Pour l'explosion que redoutait Elaine, le cadre paraissait mal choisi. Village de taille modeste, Pont-Arlon possédait 3 auberges et assez de maisons pour que personne n'ait besoin de dormir dans une grange. Au matin, lorsque Birgit et Elaine descendirent dans la salle commune, maîtresse d'Hill, la rondelette patronne, leur sourit très chaleureusement et se fendit d'une révérence aussi appuyée que le lui permettait son embonpoint. Le statut d'Aes Sedai n'expliquait pas tout. Alors que la neige bloquait les routes, l'aubergiste, ravi que son établissement soit quand même plein, s'inclinait bien bas devant quiconque passait à sa portée. Quand ses deux amis arrivèrent, Avienda finissait d'engloutir un petit déjeuner composé de pain et de fromage. Après avoir épousté les miettes qui constellaient sa robe verte, elle se leva, saisit sa cape sombre, et alla rejoindre la fille héritière et sa championne. Dehors, le soleil palichon pointait à peine le bout de son nez, et quelques nuages épars dérivaient dans le ciel limpide. Des nuages blancs et cotonneux, pas du genre à annoncer des chutes de neige. Bref, un jour parfait pour voyager. N'était Adéléas, qui remontait la rue couverte de poudreuse en tirant par le bras une des femmes de la famille, Garenia Rossoinde. Bien qu'elle eût l'air à peine plus âgée que Ninevé, Garenia, une femme du Saldaïa aux hanches étroites, exerçait depuis plus de 20 ans la profession de négociante. En principe, son nez crochu suffisait presque à lui seul à lui conférer l'autorité et l'assurance d'une experte en marchandage peu disposée à se laisser marcher sur les pieds. En ce jour, les yeux écarquillés et la bouche béante, elle faisait presque pitié. D'autant plus qu'elle gémissait doucement. D'autres membres de la famille la suivaient, masse sans cesse grossissante, en marmonnant sous cap. Réanne et les autres tricoteuses menaient cette meute, l'air sinistre, à l'exception de Kirstian, qui semblait encore plus pâle que d'habitude. Alice était là aussi, les traits impénétrables. Adéléas s'arrêta devant Elaine et propulsa en avant Garenia, si violemment qu'elle tomba à 4 pattes dans la neige. Elle resta ainsi, continuant à gémir. Les femmes de la famille se massèrent derrière elle, de nouvelles arrivant à chaque seconde.
« Elaine, » dit Adéléas. Je te soumets le problème parce que Ninevé est occupé. »
Une façon polie de dire que l'ancienne sage-dame prenait un peu de bon temps quelque part avec l'âne. Mais pour une fois, aucun sourire narquois ne ponctua cette annonce.
« Calme-toi, ma fille !»
cria la sœur marron à Garenia, qui se tut presque aussitôt.
« Parfait. Elaine, cette femme n'est pas Garenia Rossoinde. J'ai fini par la reconnaître. Il s'agit de Zaria Alcaesse. » Une novice qui s'est enfuie juste avant que Vanden et moi décidions de nous retirer afin d'écrire l'histoire du monde. Elle a avoué, quand je l'ai mise face à la réalité. Cela dit, je m'étonne que Caréane ne l'ait pas démasquée avant moi, car elles ont été novices ensemble pendant 2 ans. La loi est très claire, Elaine. Une fugitive doit remettre une robe blanche de novice et être étroitement surveillée, jusqu'à ce qu'on puisse la renvoyer à la tour, où elle subira la punition requise. Après, il y a peu de risques qu'elle songe encore à filer. »
Elaine acquiesça, tout en essayant de trouver que dire. Que Garenia, enfin Zaria, pense encore à fuir ou non, elle n'en aurait pas la possibilité. Considérant sa puissance dans le pouvoir, la tour ne la lâcherait plus, même s'il risquait de lui falloir sa vie entière, pour mériter d'obtenir le châle. Mais quelque chose que Zaria avait dit revint à la mémoire d'Elaine. Sur le coup, ça ne l'avait pas frappé, mais à présent, ça prenait tout son sens. Après avoir vécu libre pendant 70 ans, comment Garenia Zaria pourrait-elle se réhabituer à la condition de novice? Parmi les membres de la famille, les chuchotements tournaient au grondement. Puis les choses se précipitèrent. Tombant à genoux devant Adéléas, Kirstian saisit d'une main le relais de sa robe.
« Je me rends, »
dit-elle d'un ton calme étonnant pour une personne si blême.
« Voilà de ça 300 ans. Mon nom a été inscrit dans le registre des novices. Moins d'une année plus tard, je me suis enfui. Je me rends, et j'implore la clémence de la tour. »
Adéléas, aux cheveux blancs, en resta bouche bée. Kirstian prétendait s'être enfuie de la tour alors qu'elle n'était elle-même qu'un bébé, en admettant qu'elle soit née. La majorité des sœurs continuaient à ne pas croire aux âges dont se targuaient les membres de la famille, et Kirstian semblait en pleine santé. Bien entendu, Adéléas se ressaisit très vite. Quel que soit l'âge de son interlocutrice, elle, pour sa part, portait le châle depuis plus longtemps que n'importe qui d'autre, ou presque. Cela lui conférait une aura d'autorité indéniable.
« Si c'est ainsi, ma fille. »
Une brève hésitation sur ce mot, cependant.
« il faudra que tu revêtes toi aussi une robe blanche. Tu seras également puni, mais ta reddition volontaire te vaudra notre indulgence. C'est pour ça que j'ai agi ainsi. »
Kirstian déglutit péniblement, gâchant un peu sa belle équanimité. Presque aussi puissante que Zarya, toutes les tricoteuses étaient d'un niveau remarquable, elle serait elle aussi surveillée de près.
« Je savais que tu me démasquerais tôt ou tard, »
ajouta Kirstian. Adeleas acquiesça, comme si ça coulait de source. En réalité, Elaine aurait donné cher pour savoir comment la sœur s'y serait prise. Car Kirstian Chalwin n'était sûrement pas le nom de naissance de la fugitive. Mais quasiment toutes les femmes de la famille croyaient à l'omniscience des Aes Sedai. Jusqu'à ces derniers temps, en tout cas.
« Baliverne !»
s'écria soudain Sarinia Vostovan, sa voix dominant les murmures de la famille. Pas assez puissante pour prétendre devenir une Aes Sedai, et trop jeune pour occuper une place élevée dans la hiérarchie de la famille, elle sortit pourtant des rangs, du défi dans le regard.
« Pourquoi devrions-nous rendre ces femmes à la Tour Blanche? Nous les avons aidées à fuir, et ce n'était que justice. Nos lois ne nous obligent pas à les livrer. Un peu de dignité !»
lança Réanne.
« Alise, prends Sarenia en charge, je t'en prie. Elle semble avoir oublié la majorité des lois qu'elle prétend pourtant nous rappeler. »
Toujours impassible, Alise, en quelque sorte la gardienne du temple de la famille, dévisagea longuement Réanne.
« Nos lois ne nous obligent pas à livrer les fugitives, Réanne, »
dit-elle simplement. Réanne sursauta, comme si on venait de la frapper.
« Et comment proposes-tu que nous les gardions ?»
finit-elle par demander.
« Depuis toujours, nous avons protégé les fugitives jusqu'à ce que la tour cesse de les traquer. Mais quand ça ne réussissait pas, nous laissions les sœurs les capturer. C'est ça, notre loi. Voudrais-tu que nous en violions une autre, encore plus importante? Par exemple, en nous opposant aux Aes Sedai ?»
L'absurdité d'une telle chose semblait patente à entendre Réanne. Pourtant, Alise ne désarma pas.
« Oui !»
cria une voix dans la masse compacte de membres de la famille.
« Nous sommes nombreuses, et pas elles !»
Stupéfiée, Adeleas balaya la foule du regard. Bien qu'elle fût consciente que la voix anonyme avait raison, les femmes de la famille étaient trop nombreuses, Elaine s'unit au Saïdar. Elle sentit Avienda l'imiter, et Birgit se préparait à l'action. Comme si elle revenait à la réalité, Ali sursauta, puis prit des mesures à la fois plus pratiques et plus efficaces.
« Sarenia, »
dit-elle,
« tu viendras me voir ce soir quand nous camperons, avec une verge que tu auras taillée toi-même avant notre départ ce matin. Même chose pour toi, Asra. J'ai reconnu ta voix. »
Sans baisser le ton, elle ajouta.
« Quant à moi, Réanne, je viendrai te voir ce soir pour me soumettre à ton jugement. Au fait, je ne vois personne en train de se préparer à partir. »
Les femmes s'éparpillèrent, filant faire leurs bagages. Elaine en vit cependant certaines qui continuaient à marmonner entre elles. Lorsque la colonne franchit le pont de bois, au-dessus de la rivière gelée, alors que Nineveh, bouleversée d'avoir raté le drame du matin, cherchait du regard quelqu'un sur qui se défouler, la fille héritière constata que Sarenia et Asra brandissaient chacune une verge, tout comme Alise, tandis que Zarya et Kirstian, sous leur cape sombre, arboraient une robe blanche, dénichée la lumière seule savait où. Les régentes des vents les montraient du doigt en riant, bien entendu. Mais parmi les membres de la famille, les messes basses continuaient, s'interrompant seulement lorsqu'une sœur ou une tricoteuse s'y intéressait. Et désormais, lorsqu'elle regardait les Aes Sedai, une ombre voilait les yeux des fugitives. 8 jours s'écoulèrent. 8 jours à patauger dans la neige, quand celle-ci daignait ne pas tomber, et à claquer des dents dans une chambre d'auberge dans le cas contraire. 8 jours à supporter la mauvaise humeur des femmes de la famille et leur hostilité vis-à-vis des sœurs. 8 jours à voir les Hatta admirées narguer sans vergogne les unes comme les autres. Le matin du 9e jour, Elaine commença à regretter que tout ce petit monde ne se soit pas déjà écharpé tout son sou. Alors qu'elle se demandait s'il serait possible de parcourir les 4 derniers lieux sans déplorer un homicide, Kirstian frappa à sa porte et entra sans attendre d'y avoir été invité. Bien que blanche, sa robe n'était pas exactement de la nuance qu'arboraient les novices. En outre, depuis sa reddition, elle avait recouvré une grande partie de sa dignité, comme si connaître son avenir lui rendait plus supportable sa condition présente. Pourtant, elle faillit se prendre les jambes dans sa robe en faisant sa révérence, et ses yeux noirs brillaient de nervosité.
« Nineveh Sedai, Elaine Sedai, le Seigneur Lan vous prie de venir sans tarder. Il m'a recommandé de ne parler à personne, et il vous demande la même chose. »
Elaine et Nineveh échangèrent des regards perplexes avec Avienda et Birgit. Morose, l'ancienne sage-dame marmonna des aménités sur son mari, arguant qu'il ne savait pas faire la distinction entre la vie publique et l'intimité, mais il parut évident, avant même qu'elle rougisse, qu'elle n'en croyait pas un mot. Elaine sentit Birgit se concentrer, telle une flèche qu'on braque sur sa cible. Kirstian ignorait ce que voulait l'âne. Du coup, elle marcha en silence jusqu'à leur destination, à savoir la petite cabane qui se dressait au carrefour de Cooling et où Adéléas, la veille, avait amené Hispan. Campée devant la cahute, l'âne refusa de laisser entrer Kirstian. Dès qu'elle eut franchi le seuil, Elaine comprit pourquoi. Près d'un tabouret renversé, Adéléas, le regard fixe, gisait sur le côté, une coupe reposant sur le parquet, à proximité de sa main tendue. Sous sa gorge tranchée, une mare de sang finissait de se coaguler. Couché sur un lit de camp, Hispan regardait le plafond sans le voir. Un rictus lui déformant la bouche, elle avait les yeux exorbités. D'horreur, à l'évidence. Et ça n'avait rien d'étonnant, puisqu'un pieu de bois était enfoncé entre ses seins. Le marteau qui avait servi à la macabre opération était abandonné à côté du lit, à la lisière d'une autre mare de sang qui prenait naissance sous la morte. Elaine lutta contre une formidable envie de vider son estomac sur le champ.
« Par la lumière ! Qui peut avoir fait une chose pareille ?»
Avienda secoua pensivement la tête. Pas l'âne, trop concentré à regarder dans 9 directions à la fois, comme s'il redoutait que l'être ou la créature coupable de cette boucherie revienne sur les lieux de son crime. En traversant les cloisons, pourquoi pas. Birgit dégaina son couteau. De toute évidence, elle regrettait fort de ne pas avoir son arc. Une flèche braquée sur sa cible, vraiment. Au début, Ninevé resta simplement debout dans l'entrée, observant tout d'un œil d'aigle. À dire vrai, il n'y avait pas grand-chose à voir, à part ce qui sautait aux yeux. Un deuxième tabouret, une table bancale où trônait une lampe, une bouilloire et une autre tasse, et une cheminée rudimentaire, où il ne restait plus que des cendres froides. Rien de plus. Dans la minuscule cabane, un seul pas suffit à Ninevé pour atteindre la table. Plongeant un doigt dans la bouilloire, elle le porta à ses lèvres, goûta, puis cracha vigoureusement. Ensuite, elle vida l'infusion sur la table et commença à étudier les feuilles sous le regard surpris d'Elaine.
« Que s'est-il passé ? »
demanda calmement Vandaine sur le seuil de la porte. L'âne fit mine de lui barrer le chemin, mais elle l'écarta d'un simple geste. Par aimant, un geste dissuada Elaine de passer son bras autour des épaules de la Sedai. Le regard de Vandaine resta rivé sur le cadavre de sa sœur. Quant à Hispan, elle aurait tout aussi bien pu ne pas exister.
« Quand je vous ai vus converger tous par là, j'ai pensé que nous savions qu'il ne nous restait plus très longtemps à vivre, mais… »
Le masque de sérénité ne se lézarda pas. De justesse, sembla-t-il.
« Qu'as-tu découvert, Ninevé ?»
Sur le visage de l'ancienne sage-dame, la compassion semblait presque déplacée. Après s'être raclée la gorge, elle désigna les feuilles d'infusion noire sur la table, insistant sur les petits fragments blancs qu'on voyait au milieu.
« C'est de la racine d'épine pourpre, »
dit-elle, tentant en vain de ne pas trahir son émotion.
« C'est très sucré. Du coup, surtout quand on met beaucoup de miel dans son infusion, on peut très bien ne rien remarquer. »
Sans détourner les yeux de sa sœur, Vandaine hocha la tête.
« Ah, Eboudard, Adéléas a pris goût aux boissons très sucrées.
Un peu de racine d'épine pourpre calme la douleur.
En trop grande quantité, c'est la mort assurée. Quelques gorgées suffisent, mais il faut du temps. »
Ninevé prit une grande inspiration.
Elles ont dû rester conscientes pendant des heures, incapables de bouger, mais lucides. Leur meurtrier les a achevées pour éviter que quelqu'un déboule avec un antidote, bien que je n'en connaisse pas contre un dosage si massif. Ou il a voulu qu'une des deux sache qui la tuait et comment.
Elaine ne put étouffer un cri à ces évocations. Vandaine, elle, ne broncha pas.
« Hispan devait être visé, »
dit-elle, comme si elle réfléchissait à voix haute.
« Puisque c'est sur elle qu'on a passé le plus de temps. »
Égorger quelqu'un prenait en effet quelques instants, alors qu'enfoncer un pieu dans la poitrine d'une personne exigeait des efforts considérables. Un raisonnement logique. Mais comment Vandaine parvenait-elle à rester ainsi de marbre ?
« En étant ici avec Hispan, Adéléas n'aurait jamais accepté une infusion proposée par quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Du coup, nous savons qui est son meurtrier. Un suppôt de ténèbres, qui fait partie de notre expédition. En d'autres termes, une femme, très certainement, que nous côtoyons depuis le départ. »
Elaine sentit que Birgit frissonnait autant qu'elle.
« L'une des nôtres, oui. »
approuva Ninevé. Avienda entreprit d'éprouver avec le pouce le tranchant de son couteau. Pour une fois, Elaine n'y vit aucune objection. Après avoir demandé qu'on la laisse seule un moment, Vandaine s'assit sur le sol et prit dans ses bras le cadavre de sa sœur. Une fois sortie, Elaine et les autres découvrirent que Jaem, le champion décrépit de Vandaine, attendait en compagnie de Kirstian,
qui tremblait de tous ses membres. Un cri déchirant monta soudain de l'intérieur de la cahute. Le hurlement d'une âme qui vient de perdre tout ce qui compte pour elle. Bizarrement, Ninevé fut la première à vouloir retourner dans la cabane. Mais Lan la retint par le bras et Jaem, plus commode que le champion sur ce coup-là, se planta devant la porte. Que faire, sinon laisser Vanden crier son chagrin sous la protection de son champion? Un champion, s'avisa Elaine, qui partageait ce désespoir, comme elle sentait pour sa part les émotions tourmentées de Birgit. La championne prit son Aes Sedai par le bras et Avienda se saisit de l'autre. Puis elle fit signe à Ninevé de venir se joindre à la chaîne. Après une brève hésitation, l'ancienne sage-dame accepta cette invitation. Le meurtre, au sujet duquel Elaine s'était complue à plaisanter, avait bel et bien eu lieu. Une de leurs compagnes était en réalité un suppôt des ténèbres. Une nouvelle assez terrifiante pour glacer les sangs et les os. Mais on n'avait jamais rien inventé de mieux afin de réchauffer les cœurs que la flamme ardente de l'amitié. À cause de la neige, il fallut 2 jours pour couvrir les 4 derniers lieux. Dans une ambiance de funérailles, bien entendu. Même les Hatta admirés adoptant un silence respectueux. Cela dit, ça ne les empêcha pas de continuer à harceler Merylil. Les femmes de la famille, elles, continuèrent à tenir des messes basses, cessant seulement lorsqu'une Aes Sedai ou une tricoteuse se pointait dans les environs. La selle rehaussée d'argent d'Adeleas, installée sur son cheval, Vanden restait aussi impassible et détaché que lors de l'enterrement de sa sœur. Mais une lueur meurtrière dansait dans le regard de Jaem, et la même flamme devait sans nul doute brûler au fond du cœur de son Aes Sedai. Dans ces conditions, Elaine fut folle de joie dès qu'elle aperçut dans le lointain les tours et les murs de Kemlin. À croire que cette seule vision venait de ramener Adeleas à la vie et de lui offrir la couronne de roses sur un plateau d'argent. Même à Kemlin, pourtant une des mégalopoles majeures du monde, nul n'avait jamais vu une colonne si hétéroclite. Une fois les murs franchis, la fille héritière et sa suite attirèrent l'attention, malgré la cohue qui régnait en permanence dans les rues. Sortant sur leur perron, des boutiquiers en restèrent comme 2 ronds de flancs, tandis que des conducteurs de chariots immobilisaient leurs véhicules pour mieux voir. Et de tous côtés, des guerriers aïels et des promises, tous dépassant d'au moins une tête le plus grand des citadins, se pressaient pour assister au spectacle. Autour d'eux, les gens du cru ne semblaient même plus les remarquer. Elaine, en revanche, ne passa pas à côté de cet inconvénient. Si elle aimait Avienda autant qu'elle s'aimait elle-même, voire plus, savoir qu'une horde d'aïels arpentait les rues de Kemlin ne pouvait pas lui remplir le cœur de joie. Entourée de murailles blanches veinées d'argent, la somptueuse cité intérieure donna enfin à la fille héritière le sentiment d'être de retour chez elle. Dans les rues qui serpentaient autour des collines, chaque palier offrait une vue délicieuse sur des parcs et des monuments couverts de neige, et spécifiquement conçus pour être admirés de haut, comme les toits de tuiles multicolores des maisons et des manoirs. Lorsqu'elle vit l'étendard au lion blanc du royaume d'Andorre, flottait sur presque toutes les hauteurs du palais royal au mur d'un blanc immaculé, quelques étendards du dragon ou de la lumière complétant le tableau, Elaine eut un pincement au cœur. Une fois devant les grandes portes dorées du palais, Elaine avança seule, dans sa robe d'équitation grise couverte de poussière. La tradition et la légende s'accordaient sur un point. Une femme qui approchait du palais dans de trop beaux atours était condamnée à l'échec. Alors qu'elle avait insisté pour se présenter seule, la fille héritière aurait presque regretté que Birgit ou Avienda n'aient pas réussi à lui désobéir. Devant les portes, une bonne moitié de la 20aine de gardes étaient des promises. Les autres, en veste et casque bleu, arboraient sur la poitrine un dragon écarlate et or.
« Je suis Elaine Trakand !»
annonça la jeune femme, surprise par son propre calme. Sa voix portant loin, beaucoup de gens sur la grande place cessèrent d'observer ses compagnons pour se concentrer sur elle. Les paroles rituelles jaillirent tout naturellement des lèvres d'Elaine.
« Au nom de la maison Trakand, et en tant que descendante d'Ishara, je viens pour revendiquer le trône du lion, si la lumière consent à ce qu'il en soit ainsi. »
Les portes s'ouvrirent en grand. La suite ne serait pas si facile, bien entendu. Même contrôler le palais ne suffisait pas à s'assurer la possession de la couronne. Ravi de constater que Rhéenne Harfor, la première servante grisonnante, un peu rondelette mais tout aussi altière qu'une reine, tenait toujours bien en main le palais, Elaine lui confia ses compagnes et ses compagnons, qui furent aussitôt pris en charge par une petite armée de serviteurs en livrée rouge et blanc. Ensuite, la jeune femme gagna le grand hall, en d'autres termes, la salle du trône du royaume, toujours seule. Cette phase-là ne faisait pourtant pas partie du rituel, du moins pas encore. En principe, elle aurait dû aller revêtir la robe de soie rouge au corsage brodé de perles et aux manches décorées de lions blancs. Mais elle se sentait poussée en avant par une force irrésistible. Et cette fois, même Ninevé n'avait rien trouvé à y redire. Flanquée de grandes colonnes de marbre blanc, la salle du trône était pour l'instant déserte. Mais ça ne durerait pas. Pénétrant par les hautes fenêtres, la claire lumière du jour se mêlait à celle qui filtrait des vitraux géants de la voûte, sur lesquels des représentations du lion blanc alternaient avec des scènes de bataille victorieuses et des portraits des premières reines d'Andorre. En commençant par Ishara, aussi noire de peau qu'Inata admirée et auréolée d'une autorité digne de la plus grande Aes Sedai de l'histoire. Sous le regard des femmes qui l'avaient précédée, forgeant un puissant et fier royaume, aucune reine d'Andorre ne pouvait faillir à sa mission. Le monstrueux trône orné de dragons, qu'Elaine avait vu percher sur une estrade dans le monde des rêves, n'était heureusement plus là, que la lumière en soit remerciée. Et le trône du lion, à ce moment-là exposé sur un socle comme un trophée, avait repris la place qui lui revenait, au milieu de l'estrade. Également imposant et surchargé de dorures, il était cependant taillé pour une femme. En conséquence, le lion blanc qui dominait son dossier se trouvait juste au-dessus de la tête de la reine qui y siégeait. Sur ce trône, aucun homme n'aurait pu se sentir à son aise, parce qu'il aurait eu conscience, du moins selon la légende, d'avoir signé son arrêt de mort. D'après Elaine, les ébénistes avaient simplement fait en sorte qu'un homme ait du mal à tenir sur le siège. Après avoir gravi les marches de marbre blanc de l'estrade, la fille héritière posa une main sur un des accoudoirs du trône. Pour l'instant, elle n'avait aucun droit de s'y asseoir, pas avant d'avoir été couronnée. Mais prêter serment sur le trône était une coutume aussi vieille que le royaume. Non sans mal, Elaine résista à l'envie de se laisser tomber à genoux et de pleurer, les bras appuyés sur l'assise du siège. Même si elle avait plus ou moins fait le deuil de sa mère, ce retour aux sources réveillait son chagrin. Mais il n'était pas question de craquer maintenant.
« Devant la lumière, je jure d'honorer ta mémoire, mère. Oui, j'honorerai le nom de Morgaz Trakand. Et je m'efforcerai de servir dignement et glorieusement notre maison. J'ai ordonné aux gardes de repousser les curieux et les pétitionnaires. Parce que j'ai pensé qu'être seul un moment te ferait plaisir. »
Elaine se retourna lentement pour découvrir Dailin Taravin, qui approchait d'elle à pas mesurer. Lors de la quête du trône de Morgaz, Dailin avait compté parmi ses soutiens de la première heure. Aujourd'hui, malgré ses cheveux grisonnants et les rides au coin de ses yeux, cette femme restait superbe, et plus forte que bien des hommes. Une alliée ou une ennemie à ne pas négliger. S'arrêtant au pied de l'estrade, elle leva les yeux.
« Voilà deux jours que j'entends dire que tu es vivante. Mais c'est seulement maintenant que j'y crois. Tu es venue accepter le trône que t'offre le dragon réincarné. Non, je réclame le trône qui me revient de droit. Et je n'ai pas besoin qu'on me tienne la main. Le trône n'est pas une babiole qu'on se fait offrir par un homme. »
Dailin acquiesça, comme s'il s'agissait d'une évidence. Ce que c'était, pour tout Andorien digne de ce nom.
« Dans quel camp es-tu, Dailin ? Celui de la maison Trakand ou un autre ? En chemin, j'ai souvent entendu citer ton nom. Si personne ne te tient la main, alors je suis dans ton camp. »
Quand il s'agissait de parler sèchement, peu de gens arrivaient à la cheville de Dailin. Elaine s'assit sur la dernière marche de l'estrade et fit signe à son aîné de la rejoindre.
« Bien entendu, »
dit Dailin en s'asseyant.
« Il y a quelques obstacles. Comme tu le sais peut-être, on compte déjà beaucoup de prétendantes. Nayan et Elenia, je les ai neutralisées, précisément, emprisonnées, sous une accusation de trahison que la plupart des gens semblent vouloir accepter. À cette heure, le mari d'Elenia s'active encore pour elle, et sans y mettre un grand enthousiasme. Et cette idiote d'Arimilla s'est portée volontaire. Elle compte quelques partisans, mais rien qui soit de nature à t'inquiéter. Si on oublie les Aiel qui grouillent en ville, attendant le retour du dragon réincarné, tes seuls sujets d'inquiétude sont Aemlin, Aratel et Pélivar. Pour l'instant, Luan et Elorienne te soutiennent, mais leur allégeance pourrait changer. »
Une liste très courte récitée sur un ton de marchand de chevaux. Elaine était informée des intentions de Nahéan et d'Elenia. En revanche, elle ignorait que Jarid croyait toujours aux chances de succès de sa femme. Soutien ou pas, Arimilla était vraiment idiote, si elle pensait pouvoir réussir. En revanche, les cinq derniers noms avaient de quoi inquiéter. Parce que tous ces gens avaient jadis soutenu Morgaz, comme Dailin, et parce qu'ils dirigeaient tous une maison puissante.
« Ainsi, Aratel et Aemlin veulent le trône, »
murmura Elaine.
« De la part d'Elorienne, je n'y crois pas. En tout cas, pas pour elle-même. »
Pélivar pouvait agir dans l'intérêt d'une de ses filles. Luan, par contre, n'avait que ses petites filles, et toutes trop jeunes pour régner.
« Tu laisses entendre que ces cinq maisons pourraient s'unir. Derrière quelle figure de proue ?
une menace sérieuse, si ça se produisait. Dayeline posa le menton sur sa paume et sourit.
Eh bien, il semble qu'on me considère comme la candidate idéale. Elaine, que comptes-tu faire au sujet du dragon réincarné? On ne l'a pas vu ici depuis un moment, mais il peut revenir n'importe quand, semble-t-il.
Elaine ferma les yeux un moment, mais quand elle les rouvrit, la réalité n'avait pas changé. Encore assise sur la dernière marche de l'estrade, elle avait toujours à côté d'elle une Dayeline souriante. Par la lumière, son frère combattait pour Elaïda et son demi-frère faisait carrière chez les Capes Blanches. En ce jour, elle avait rempli le palais de femmes susceptibles de se sauter à la gorge, l'une d'elles étant en outre un suppôt de ténèbres, ou peut-être même une sœur noire. Et sur le chemin du trône, ses principaux adversaires avançaient sous l'étendard d'une femme qui prétendait la soutenir. Décidément, le monde devenait fou. Alors, pourquoi ne pas ajouter sa propre démence ?
J'ai l'intention de le prendre pour champion. Voilà ce que je compte faire. Et également de l'épouser. Mais tout ça n'a rien à voir avec le trône du lion. Mon premier projet sur ce plan...
En écoutant, Dayeline éclata de rire. Parce que ce plan lui plaisait ? Ou parce qu'elle estimait que son propre chemin vers le trône se dégageait ? Quoi qu'il en soit, Elaine savait désormais à qui elle aurait affaire. Alors qu'il entrait au petit trot dans Kemlin, David Hanlon ne put s'empêcher de penser au potentiel de mise à sac de la grande cité. Lors de ses années de service, il avait vu plus d'une ville ou d'un village subir une razzia en règle. 20 ans plus tôt, il était même entré dans Kyrienne après le départ des Aiel. À ce propos, il semblait étrange que ces guerriers sauvages aient fait, apparemment en tout cas, si peu de dégâts à Kemlin. Cela dit, si les plus hautes tours de Kyrienne n'avaient pas été en feu à l'époque, il aurait été difficile de voir que des pillards étaient passés par là. Entre autres trésors, il restait beaucoup d'or à ramasser un peu partout, et pas mal de types s'étaient dévoués pour faire le travail. Hanlon sonda les larges rues qui grouillaient de cavaliers et de piétons. En véritable expert, il repéra les gros marchands prêts à donner leur bourse dès qu'on leur montrait une lame, avec l'espoir de sauver leur misérable peau, ainsi que les jeunes filles et les femmes plus épanouies, trop terrifiées, quand on les tirait dans un coin tranquille, pour avoir la force de crier et encore moins de se débattre. Hanlon avait assisté à des scènes de ce genre, y participant plus souvent qu'à son tour. Et il espérait bien recommencer un jour. Mais pas à Kemlin, dut-il reconnaître avec un soupir intérieur. Si les ordres qu'il envoyait ici n'avaient pas été du genre auquel on ne désobéit pas, point final, il serait allé quelque part où le butin, certes moins somptueux, se révélait plus facile à récolter. Ses instructions étaient des plus précises. Après avoir laissé sa monture aux écuries du Taureau Rouge, dans la nouvelle cité, il marcha environ une demi-lieue, jusqu'à une grande maison, nichée dans une rue latérale. La demeure d'une riche négociante, qui ne tenait pas à faire étalage de son or, reconnaissable au petit dessin qui figurait sur la porte, un cœur rouge dans une main d'or. Avec son regard bovin et ses énormes battoirs, le malabar qui le fit entrer n'avait rien du serviteur zélé d'une marchande. Sans un mot, il guida Hanlon à l'intérieur de la maison, puis le fit descendre à la cave. Prudent, David fit coulisser sa lame dans son fourreau. Parmi les innombrables choses qu'il avait vues, on trouvait pas mal de types et de bonnes femmes convoquées, après un échec, sur le lieu de leur exécution. Avait-il échoué? Honnêtement, il ne le pensait pas. Mais on ne pouvait pas parler non plus de succès. Cela dit, il avait suivi les ordres. Hélas, ce n'était pas toujours suffisant. Dans la cave, illuminée par toute une série de lampes dorées, le regard d'Hanlon fut d'abord attiré par une jolie femme, vêtue d'une robe de soie rouge bordée de dentelles, ses cheveux tenus par un filet de guipure. Dame Chiyane. Même s'il ne savait pas qui elle était, Hanlon allait devoir lui obéir. Souriant, il se fendit d'une courbette. Dame Chiyane se contenta de le regarder, comme si elle attendait qu'il remarque ce qu'il y avait d'autre dans la cave. Il aurait fallu être aveugle pour ne rien voir. À part quelques tonneaux, il n'y avait rien d'autre dans ce sous-sol qu'une grande et lourde table, décorée d'une très étrange façon. Dans le plateau, on avait découpé deux grands ovales. La tête et les épaules d'un homme émergeaient du premier, le second laissant apparaître celle d'une femme. La tête inclinée en arrière, les deux prisonniers étaient maintenus dans cette position inconfortable par une lanière attachée à un morceau de bois glissé entre leurs dents et cloué au plateau de la table par ses deux extrémités. Sous la table, l'homme comme la femme étaient à genoux, les poignets attachés aux chevilles, parfaitement ligotés pour se plier à toutes les fantaisies passant par la tête de leur bourreau en jupon. Les cheveux grisonnants et le visage aristocratique, l'homme avait le regard fou, ce qui n'avait au fond rien de surprenant. Sa crinière noire brillant répandue sur la table, la femme avait un visage un peu trop oblong, au goût d'Hanlon. Quand il vit vraiment ce visage, il ne put empêcher sa main de voler vers la poignée de son épée. Non sans effort, mais en s'efforçant de ne rien laisser paraître, il lâcha l'arme. C'était bien d'être Aes Sedai, mais une sœur qui se laissait saucissonner ainsi ne pouvait pas être très dangereuse.
« Tu as donc un semblant de cerveau, »
dit Chien. À sa façon de parler, c'était une noble. En tout cas, elle en avait l'aura d'autorité. Et la démarche, lorsqu'elle contourna la table pour venir scruter le visage du prisonnier.
« J'ai demandé au grand maître Moridin de m'envoyer un type intelligent, pas comme ce pauvre Jaichim. »
Hanlon fronça les sourcils, mais se reprit aussitôt. Ses ordres lui venaient de Moghedien. Qui était donc ce Moridin par la fosse de la perdition? Aucune importance. Ses ordres lui venaient de Moghedien, et cela seul comptait. Le Malabar tendit à Chien un entonnoir, qu'elle introduisit dans le trou ménagé dans le morceau de bois, puis dans la gorge de Jaichim, dont les yeux menacèrent de jaillir de leurs orbites.
« Ce pauvre Jaichim a gravement échoué, »
dit Chien, en souriant comme un renard qui suit des yeux une volaille.
« Moridin entend qu'il soit puni, et le pauvre Jaichim aime son eau-de-vie. »
Chien recula, pas trop loin, afin de bien voir le spectacle, et le colosse avança vers la table, un tonneau entre les bras. Soufflé, Hanlon songea qu'il aurait peut-être pu soulever tout seul le tonneau, mais sûrement pas le renverser si aisément. Le pauvre Jaichim eut le temps de crier une fois, avant qu'un flux régulier de liquide ambré se déverse dans l'entonnoir, puis dans sa gorge. Alors qu'une odeur d'alcool saturait l'air, le prisonnier tenta de se débattre, réussissant même à soulever légèrement la table sur un côté, mais rien n'y fit. Des bulles remontèrent dans l'entonnoir avec chacun de ses cris, mais le flux ne se tarit à aucun moment. Puis l'homme cessa peu à peu de se défendre. Quand il s'immobilisa enfin, ses yeux morts fixant le plafond, de l'eau de vie coula de ses narines. Imperturbable, le colosse ne cessa pas de verser, avant que la dernière goutte soit tombée du tonneau.
« Je crois que le pauvre Jaichim a fini par s'imbiber avec assez d'eau de vie. »
dit Chien avec un rire de gorge. Hanlon ne trouva rien à redire à cette remarque. Très vaguement, il se demanda qui était le mort. Chien n'en avait pas terminé. Sur un geste d'elle, le colosse arracha de la table une extrémité du curieux bâillon de la Aes Sedai. Considérant la violence de l'opération, Hanlon supposa que plusieurs dents de la sœur avaient dû être plus qu'ébranlées par le morceau de bois. Mais la prisonnière ne s'arrêta pas à ce détail et se mit aussitôt à brailler.
« Je t'obéirai! Je t'obéirai comme l'ordonne le grand maître! Il m'a libéré du bouclier pour que je puisse obéir! Et il m'a dit de le faire! Laisse-moi te montrer ma soumission! Je romprai devant toi! Je suis un ver de terre et toi l'astre du jour! Par pitié! Par pitié !»
Chien plaqua une main sur la bouche de la sœur, étouffant ses paroles, sinon ses gémissements.
« Comment puis-je savoir que tu n'échoueras pas encore, Falion?
Tu l'as déjà fait une fois. »
Et Moridin m'a autorisé à choisir ton châtiment. Il m'a aussi fourni une autre servante. Ai-je besoin de deux vermines dans ton genre? Je vais peut-être te donner une seconde chance de plaider ta cause, Falion. Mais dans ce cas, tu devras être convaincante et faire montre d'un véritable enthousiasme.
Dès que Chien retira sa main, l'Aes Sedai recommença à brailler, multipliant les promesses extravagantes. Mais le colosse remit le bâillon en place, reclouant l'extrémité, et les cris furent réduits à de sinistres gargouillis. Puis l'entonnoir changea de place, et le colosse posa un autre tonneau sur la table, s'apprêtant à répéter le rituel de l'eau-de-vie. Prise de panique, Falion se débattit assez violemment pour faire vibrer la table. Hanlon en fut très impressionné. Briser une Aes Sedai devait être une autre affaire que d'en imposer à un marchand grassouillet ou à sa fille aux joues rondes. Cela dit, il semblait bien que Chien avait reçu l'aide d'un des rejetés. S'avisant que la femme en soie rouge le dévisageait, Hanlon cessa de regarder Falion en souriant. Sa première règle dans la vie était de ne jamais fâcher ceux que les rejetés avaient placés au-dessus de lui.
« Dis voir, Hanlon, ça te plairait de poser les mains sur une reine ?»
David ne put s'empêcher de passer sur ses lèvres une langue gourmande. Une reine, voilà bien un fruit défendu auquel il n'avait pas encore goûté.